Chers auditeurs, bonjour. Vincent, au micro de RFM, vous allez vivre l'heure la plus sombre. Chers auditeurs, pour cette 9e émission, nous vous proposons un programme spécial suisse. Nous parlerons de son histoire, sa douceur de vivre, mais aussi et surtout de son organisation politique. Pour parler de tous ces sujets, nous accueillons aujourd'hui 4 personnalités, toutes attachées à la Suisse. Alain Soral, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous aujourd'hui. Vous êtes le président d'Égalité et Réconciliation et, pour ceux qui l'ignoreraient, vous avez la double nationalité franco-suisse. Nous allons en parler tout à l'heure. Alimoudine Ousmani, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes journaliste indépendant à Genève. Vous avez publié chez Contre-Culture un entretien écrit avec Gila Tatzmon intitulé « Du tribalisme à l'universel ». Merci à vous d'avoir accepté notre invitation.
Je vous en prie.
Pascal Mancini, bonjour.
Bonjour.
Alors, vous êtes un athlète suisse, spécialiste du sprint, c'est ça ?
Exactement.
Vous détenez le record de Suisse du 4x100 mètres et vous êtes fait connaître par le grand public pour avoir effectué diverses quenelles et autres gestes polémiques à la fin de vos compétitions sportives. Vous nous en direz plus tout à l'heure. Joseph Navratil, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes secrétaire de l'UDC, l'Union démocratique du Centre pour la ville de Genève. Vous avez été candidat au Conseil national au Parlement.
Tout à fait.
Merci d'avoir accepté notre invitation.
Je vous en prie.
Chers auditeurs, comme chaque semaine, je suis accompagné de mon complice Xavier de la rédaction d'Égalité et Réconciliation. Xavier, bonjour.
Bonjour Vincent, bonjour à tous.
Messieurs, nous allons aujourd'hui procéder de la façon suivante. Si vous êtes d'accord, nous parlerons dans un premier temps de la Suisse, puis nous aborderons ensemble divers sujets d'actualité. Êtes-vous prêts pour l'heure suisse la plus sombre ?
On est prêts.
C'est parti. Alors beaucoup d'auditeurs, j'imagine, connaissent de la Suisse ce que nous savons tous, les banques, les montres, la neutralité malgré une grande tradition militaire et un peu la douceur de vivre. Mais il y a un sujet que je voudrais aborder en priorité, alors je vous pose la question à vous, Alimoudine Ousmani. La démocratie en Suisse, comment ça marche ?
Alors déjà, c'est une démocratie directe ou semi-directe, selon l'appellation de certains. Donc le peuple élit le Parlement qui lui-même élit l'exécutif. Donc l'exécutif, c'est le conseil fédéral qui est composé de 7 membres. Récemment, le 18 octobre, on a élu un nouveau Parlement. Donc le peuple a la possibilité de s'exprimer, notamment grâce à l'initiative populaire. Il suffit de 100 000 signatures, mais il faut aussi que ça passe la rampe du Parlement. Hein. Donc on vote environ 4 fois par an. Donc le problème, c'est que l'exécutif qui traîne des pieds pour appliquer les décisions populaires est parfois un peu critiqué. Il n'y a pas de personnification du pouvoir en Suisse. Ce serait inimaginable qu'un Alain Soral soit persécuté par le pouvoir comme c'est le cas en France.
Et je crois savoir d'ailleurs, Joseph Navrati, vous êtes donc représentant de l'UDC pour
oui,
la ville
fait.
De Genève.
Tout à fait, je suis secrétaire.
Vous avez gagné des élections dimanche dernier, c'est ça ?
Voilà, mon parti, oui, a gagné haut la main. Nous avons obtenu 29,4% des suffrages.
Et quelle est la ligne de votre parti exactement ? Est-ce que vous nous
expliquez ? Si vous voulez, c'est le seul grand parti patriote et nationaliste.
D'accord.
Donc nous défendons notamment la neutralité suisse, l'armée de milice. Et une chose importante pour nous est cette non-entrée dans l'Union européenne.
Et donc la Suisse, bien sûr, n'est pas dans l'Union européenne. Et est-ce que ça a des avantages pour vous, pour votre pays ?
Oui, tout à fait. Ben,
quand vous
nous expliquez ? Quand on voit en fait la situation économique de nos voisins, la nôtre est enviable. Nous avons nos problèmes, mais on n'a pas les mêmes taux de chômage. Pour vous donner un exemple, dans mon canton, le chômage est à peu près 5,5%.
D'accord. Mais vous êtes dans l'espace Schengen, malgré tout ?
Tout à fait, oui.
D'accord, ok. Donc il y a des flux migratoires en Suisse actuellement ?
Oui, mais le peuple a commencé à grogner et le gouvernement l'a entendu dernièrement, en fait. Nous avons eu l'intervention de l'armée maintenant aux frontières, qui vient seconder en fait les gardes frontières.
Alors, si je peux me permettre de compléter,
bien sûr.
La Suisse n'est pas touchée par le flux migratoire des Syriens qui préfèrent aller en Allemagne ou en Suède.
Et oui, d'ailleurs, j'aimerais rajouter là-dessus que... En fait, encore une preuve du fait que cette immigration de masse est organisée, c'est que maintenant, il y a des gens en fait, qui informent les migrants d'où aller. Ils leur disent, la Suisse, c'est peut-être pas le meilleur plan. Va en Allemagne ou va en Grande-Bretagne, vous voyez.
Et la population suisse, vis-à-vis de ça, quelle est sa réaction ? Parce que donc vous, il faut le dire, l'UDC, c'est un parti qui est considéré comme un parti d'extrême droite.
Tout à fait,
en Suisse,
oui,
comme,
c'est ça.
Comme le Front National en France.
C'est à peu près l'équivalent, même si évidemment il y a des différences, rien que du fait que la Suisse a ses particularités.
D'accord. Xavier ?
Oui, c'est le parti dont la figure de proue est Oscar Freisinger. Je crois que vous êtes dans le même canton. Vous avez des rapports.
Lui est valaisan, je suis de Genève.
Ah, d'accord. Voilà.
Mais nous sommes rencontrés, on est d'accord sur de très nombreux points.
Il a un peu, sa position a un peu évolué, notamment au contact d'Alain Soral. Il me semble qu'il a un peu nuancé ses propos sur l'islam.
Et puis bon, il est aussi assez proche de Slobodan Despot.
Voilà.
Je pense qu'il est aussi un petit peu influencé.
Il est plutôt dans la critique de l'impérialisme états-unien, notamment.
Oui, si je peux intervenir, on avait débattu, lui et moi. D'ailleurs, c'est un type assez sympathique. Mais à l'époque, il y avait eu un petit problème, c'est qu'il ne disait pas tout à fait la même chose à l'antenne que hors antenne. Et hors antenne, il était beaucoup plus proche de moi qu'à l'antenne.
Moi, bon, je pense qu'après, en tant que politicien...
Oui, il est tenu à certaines mesures et puis à respecter certaines normes de la politique officielle.
Tout à fait.
Et dans le système politique suisse, est-ce qu'il y a, comme en France, une influence très forte du lobby juif? Parce qu'on sait qu'en France, bon, le CRIF a cette importance. Est-ce qu'en Suisse, c'est le cas? Parce que je me tourne vers Pascal Mancini. Je crois que Pascal, toi, tu as eu des problèmes avec des quenelles que tu as faites à la fin des compétitions sportives. Qu'est-ce qui t'est arrivé exactement?
J'ai fait quelques références à Dieudonné en faisant une quenelle lorsque j'ai fait champion suisse sur la ligne d'arrivée. Et c'était passé un peu inaperçu, mais en fait, quelques jours après, un journal a mis ça en première page, la photo de la quenelle. Et après, ça fait un gros buzz. Et j'ai réitéré avec des au-dessus c'est le soleil. Donc c'était assez marrant. Par contre, la suite l'était un peu moins, puisque j'ai eu pas mal de pression de la Fédération Suisse d'Athlétisme. Et en fait, j'ai su que c'était la CICAD, donc... qui est l'équivalent de la LICRA en Suisse, qui avait appelé la fédération pour dire que c'était des gestes antisémites. Bon,
excuse-moi, en Suisse, on est tellement chanceux qu'on a non seulement la CICAD, mais aussi la LICRA.
Ouais, c'est vrai.
Mais vous avez les deux?
On a les deux. On est vernis.
Mais la LICRA, on l'entend moins.
Oui, tout à fait, c'est la CICAD qui fait tout le boulot.
Mais là, du coup, tu peux encore concourir? Tu peux faire des compétitions?
Donc, en fait, j'ai eu beaucoup de pression, même de suspension. C'est-à-dire que j'aurais pas pu courir pendant une année, deux ans. Et j'ai pris un très bon avocat qui m'a très bien défendu, Maître Junot, qui a défendu pas mal de gros poissons, déjà, dont Jean-Marie Le Pen, ou des gens comme Garaudy aussi. Et il a envoyé une grosse lettre à la fédération, il a renversé la pression. Et depuis, en fait, j'ai plus de nouvelles. Donc normalement, j'aurais dû avoir une sanction, un blâme, ou quelque chose comme ça. Et j'aurais dû enlever, en fait... toutes mes images qui faisaient allusion à Dieudonné, même des trucs aussi banals qu'un smiley d'ananas ou une photo où je mangeais de l'ananas. Et j'aurais dû enlever ça de mon Facebook, de ma fanpage Facebook. Et moi, j'ai pas été d'accord. Donc j'ai résisté à la pression et pour finir, il n'y a pas eu de suite. Quoi.
D'accord. Une sorte de Anelka suisse, en fait.
C'est l'Anelka suisse.
Exactement.
Mais qui n'est pas en fin de carrière, lui.
Xavier ?
Oui, j'avais une question à poser à Joseph Navratil. Quand on ouvre un livre d'histoire, on apprend que la Suisse a été fondée en 1291 par le serment...
Du Grütli.
Le serment de la plaine du Grütli, entre exact. Les trois cantons Uri, Schwyz et Nidwald. Oui. Voilà, et qui a été renouvelé en 1307. Et pourtant, quand on va sur Wikipédia, on apprend que c'est un mythe fondateur. Alors, y a-t-il une offensive révisionniste sur l'histoire de la Suisse?
Bon, je ne pense pas qu'on puisse comparer ça à un autre révisionnisme qui s'occupe d'une autre période historique. Par contre, oui, ce qui est certain, c'est que c'est un mythe fondateur. Il n'y a pas tellement en fait, de base historique pour ça, mais ça n'enlève rien en fait, à sa valeur. C'est une valeur...
Quelle est son originalité, sa portée? Qu'est-ce que ça institue dans la tradition politique suisse?
Je dirais que ça crée une cohésion, une union entre les habitants suisses. C'est symbolique,
sur un mode fédéral, surtout.
Tout à fait. Tout à fait. Et c'est l'union fait la force. Parce qu'en fait, pourquoi la Suisse s'est créée, c'était parce qu'elle avait des voisins très puissants qui lorgnaient sur ses territoires.
Et l'idée d'une confédération, en plus avec trois langues.
L'union fait la force, quatre en fait, avec le Romanche.
Ouais. Oui, le Romanche, ouais. Oui.
Tout à fait. Oui. D'ailleurs, par exemple, enfin, moi, j'aime bien parler de Genève puisque je suis de là. Ça fait 200 ans que nous avons rejoint la Confédération. Et pourquoi? C'était parce que nous avons été envahis par la France, n'est-ce pas, napoléonienne. Et la France napoléonienne s'est fait foutre dehors par les Autrichiens menés par le général Bubna von Leibniz.
Et tchèque d'origine.
Tout à fait, ouais. Une autre fierté. Et suite à ça, en fait, stratégiquement, Genève s'est dit, pour ne pas retomber sous le giron d'une puissance ou d'une autre, rejoignons cette confédération. Donc, alliance militaire, n'est-ce pas ?
Et comment vous voyez l'avenir de la Suisse, les évolutions politiques possibles ?
Eh bien là, regardez, suite aux élections de dimanche, c'est plutôt bon signe. Le peuple a envoyé un signal clair, il ne veut pas d'une immigration de masse, il ne veut pas d'Union européenne, il veut renégocier les bilatérales, parce que je ne sais pas si vous êtes au courant, mais nous avons une série d'accords tout à fait passés avec l'Union européenne. Et donc là, en fait, dans le cadre de l'application donc, de ces votations du 9 février que nous avons évoquées brièvement, donc, qui se nommait contre l'immigration de masse, nous allons, donc, si le Conseil fédéral applique la décision populaire, nous allons dénoncer ces accords bilatéraux et les renégocier, notamment en ce qui concerne la libre circulation des personnes.
En fait, c'est pareil en Suisse qu'ailleurs, c'est-à-dire que les élites sont très, très collabos au processus mondialiste, et la base d'instinct est pour maintenir ses spécificités.
Oui, tout à fait. D'ailleurs, je m'étais souvent demandé quelle était la raison, puisque les politiques suisses ne sont pas connus pour être corrompus qu'à la moelle. Mais ce qui se passe, et j'en ai parlé d'ailleurs avec Oscar, nous étions tombés d'accord sur le fait que c'est une sorte de garantie pour une retraite douce. Pourquoi pas Bruxelles, par exemple, avec un petit poste payé, vous voyez.
Joseph, on entend souvent parler des lanceurs d'alerte et on remarque que souvent ils s'en prennent à l'Union des banques suisses, à l'UBS, et beaucoup moins à Wall Street. Comment vous analysez ce phénomène ?
Regardez, il y a une lutte à mort dans le secteur financier. Je ferai le parallèle en fait avec la chute du secret bancaire en Suisse, puisqu'un étranger aujourd'hui doit informer le fisc de son pays pour pouvoir placer ses fonds en Suisse. Nous avons encore le secret bancaire pour les Suisses, mais pour les étrangers, il n'existe plus. Pourquoi ? Parce que justement, il y a cette guerre entre différentes places financières, et je peux même m'avancer et dire qu'il y a une guerre entre, si vous voulez, l'Europe continentale, latine quelque part, ou germanique, et anglo-saxonne. Ce qui se passe, c'est que donc, aujourd'hui, un étranger ne peut plus placer ses fonds ici, chez nous, en Suisse. Mais par contre, ces mêmes fonds, seront les bienvenus dans le Delaware, dans la City de Londres et en Asie du Sud-Est. Donc c'était juste une question de concurrence. C'est pas une question d'honnêteté ou de morale tout à fait, d'éthique.
Mais c'est le poumon économique de la Suisse qui est attaqué.
Ah oui, tout à fait. Mais moi, je pense honnêtement que les Suisses ont toujours su s'adapter. Rappelons-nous que la Suisse était un pays pauvre à la base. Nous sommes sans ressources naturelles. Grâce au génie suisse, nous avons réussi à nous en sortir. L'horlogerie, l'industrie de précision, la mécanique de précision, je pense qu'on va nous rebondir. Mais peut-être qu'à un moment, il faudra aussi se retrousser les manches, retourner à la ferme et pas juste spéculer.
Il y a un paradoxe sur la Suisse qui est très peu connu des Français, parce que moi, je suis binational, je le sais. C'est qu'on présente toujours la Suisse comme un pays pacifiste, ce qui est vrai. Mais ce qu'on oublie, c'est que les Suisses... Le premier métier des Suisses, qui était
mercenaires,
et qu'ils ont fourni les soldats de toutes les armées
jusqu'à Marignan, voilà. Parce qu'on s'est pris une fessée.
Puisque les armées royales étaient des armées de payées, c'était pas des armées de conscription. Et en fait, beaucoup de belles batailles dont on s'enorgueillit sont des batailles en fait en apparence de Français contre Allemands ou Anglais de l'époque, mais en réalité, c'est des bactards
de Suisse contre Suisse. Voilà, ouais. Tout à fait.
C'est-à-dire que c'est un pays de militaires, les Suisses.
Les gardes suisses au Vatican.
Voilà, c'est tout ce qui reste.
Et puis, c'est un pays où chaque soldat fait des périodes tous les ans, et il a son pactage chez lui, avec son arme, etc., il faut le savoir.
Le citoyen soldat.
On peut mobiliser l'armée suisse en 3/4 d'heure, ou un truc comme ça. C'est le principe, oui.
Donc un pays qui a encore des bases solides au niveau de la souveraineté. Quel regard portez-vous sur la France actuelle, son évolution ?
Je ne peux faire qu'un triste constat. Quand on se souvient de l'Empire français et qu'on regarde l'état de la France aujourd'hui, je sais pas, si j'étais français, je pense que je serais aussi mécontent et peut-être que j'irais même plus loin.
Pascal ?
C'est vrai que nous, on a toujours l'impression que Paris, c'est extraordinaire, que c'est beau, la Tour Eiffel, etc. Mais la première fois que je suis venu, alors que pourtant, je n'avais pas encore écouté beaucoup de Soral, J'ai remarqué que ça tournait pas vraiment rond, qu'il y avait pas mal de problèmes. Et puis j'ai été un peu déçu, c'est vrai. Après, c'est vrai que je trouve aussi à Paris de très beaux monuments. Il y a vraiment le plus beau et aussi le plus mauvais, on va dire, à Paris.
Ce qui est notoire quand on, pour un binational, c'est l'incroyable arrogance de la France sur les idées de démocratie, tu sais, avec cette idée que c'est eux qui ont inventé toutes ces idées avec Montaigne, la Boétie, etc. La France donneuse de conseils démocratiques et d'exemples démocratiques, alors que la Suisse est un pays beaucoup plus dans les faits démocratiques que la France, et que vu de Suisse, la France est pratiquement une monarchie républicaine, quand on voit les privilèges attachés à la fonction présidentielle, le coût des politiques en France par rapport au coût des politiques en Suisse.
Et par rapport au pouvoir d'achat du français du quotidien, quoi. C'est ça qui est dingue.
Il y a un décalage.
Ce décalage est assez marrant, c'est que le Suisse, il rigole de voir le français donner des leçons de démocratie à la terre entière, alors que vu de Suisse, la France est une république bananière, pratiquement. Hein.
Et c'est Rousseau qui était citoyen de Genève, je crois que c'est le début de ses confessions.
Comme moi, oui. Oui, bah, Rousseau, c'est un petit genevois qui était apprenti chez son oncle, apprenti horloger chez son oncle, qui a pris son baluchon et qui est monté à Paris, quoi, ouais. Comme moi, et qui a vu tout le paradoxe et déjà tout le mensonge de ce qu'on appelle le monde culturo-mondain français, à la fois fascinant et très mensonger. Et il ne faut pas oublier, oui, que Jean-Jacques Rousseau, même s'il a fait toute sa carrière en France et que tout son questionnement s'est posé par rapport à la situation française, c'est un grand génie suisse.
D'ailleurs, j'espère qu'on le récupérera un peu, enfin un jour, ou du reste, ses restes.
Moi, quand je suis allé à Genève, je suis allé honorer sa mémoire, il a sa statue sur la petite île. Là,
tout à fait, l'île Rousseau.
Oui, l'île Rousseau.
Et dans sa tentative de constitution pour la Corse, on sent l'influence
de la constitution suisse. Et il a été en butte, d'ailleurs, à la haine des élites, on va dire, bancaires protestantes genevoises, instrumentalisées par l'ignoble Voltaire, hein, qui a pratiquement essayé de le faire assassiner.
Madame de Staël et compagnie.
Et qui a une ville à son nom, Ferney-Voltaire, aux frontières de la Suisse.
Donc cette histoire Voltaire-Rousseau est une histoire très suisse.
Ali Moudine, vous êtes journaliste indépendant à Genève. Comment on peut exercer le métier de journaliste en Suisse ?
Alors moi, je ne suis pas affilié à un média en particulier. Je propose mes articles. Ils peuvent me les acheter ou non. C'est selon leur bon vouloir. Je pense qu'en France, c'est aussi possible, mais...
C'est de plus en plus dur.
C'est de plus en plus dur, ouais.
Il y a eu un effondrement du statut du journalisme en France qui a commencé à partir des années 85. Où avant, il y avait des comités de rédaction où les journalistes faisaient un journal. Et on est passé au statut du pigiste généralisé, hein, comme si on était passé du statut de propriétaire terrien à journalier agricole. Aujourd'hui, comme je l'ai dit, un journaliste en France aujourd'hui, c'est une pute ou un chômeur. Et d'ailleurs, de plus en plus, c'est une pute au chômage.
Et lorsque, comme vous savez, je publie parfois pour le site de R, j'ai la fierté de vous dire aujourd'hui, j'ai ma carte de chômeur dans ma poche.
Ouais, ça a coûté cher.
Avec Joseph, nous avons créé un média qui s'appelle lapravda.ch. Alors, on n'a pas de moyens, mais on a la chance d'être souvent relayé par Égalité et Réconciliation, ce qui nous procure pas mal d'audience.
Ce qui nous offre visibilité, bien sûr. Ouais, bien sûr.
Alors, il y a une question qui est assez intéressante. Enfin, c'est étonnant du point de vue de la France. La Suisse est une nation qui regroupe quand même des communautés, donc quatre communautés, il me semble. Est-ce qu'il y a une cohésion en Suisse entre ces communautés ? Est-ce que vous considérez que vous êtes une nation à part entière ? Comment s'articulent ces communautés entre elles ?
Alors, nous, on fait partie de la minorité romande, qui représente moins de 30% de la population. On n'a pas l'impression d'être une minorité. C'est pour ça que ça marche, parce que chaque canton a ses propres lois. Donc les romans n'ont pas l'impression d'être opprimés.
Chacun a son autonomie, en fait, c'est ça.
C'est une confédération.
C'est pas centralisé.
C'est pas une nation,
donc
au sens français du terme. C'est une confédération helvétique. Ça ressemble plus aux États-Unis, à la limite.
Ouais.
Sans les dérives.
Alors, en tant que Français, il y a un aspect de la Suisse qui nous est connu. C'est l'aspect cette question que vous appelez la question des frontaliers, c'est-à-dire tous ces Français qui viennent travailler en Suisse parce que le salaire est une fois et demie ou deux fois supérieur. Je crois que
À l'époque où ma mère était travailleuse frontalière, parce que j'ai vécu à Annemasse, c'est pour vous dire que je viens de loin quand même, hein, et ma mère travaillait à Genève comme... Elle était claire de notaire. Le rapport, c'était x4. C'est-à-dire qu'elle gagnait... à l'époque, c'était 1 000, ça correspondait à 10 000 francs. un million de centimes, et ça faisait 40 000 francs. Je sais pas si
et, et le cours du franc français était de 4 pour 1
voilà, par rapport au franc suisse. C'est-à-dire que c'était de travailler à Genève et de vivre à Annemasse, ça lui, elle gagnait 4 fois le salaire de l'Annemassien qui travaillait en France. C'est pour vous dire que c'était un privilège incroyable. Mais ce qu'il faut faire remarquer, et ça met le doigt sur ce qu'on appelle la préférence nationale, c'est que quand il y a eu la crise, je crois qui était vers 1975, hein, il y a eu la grave crise économique, les Suisses ont pratiqué la préférence nationale et ils ont, du jour au lendemain, mis au chômage et sorti du monde du travail suisse un certain contingent de frontaliers afin de maintenir à peu près le plein emploi en Suisse. Et ça, c'est inconcevable en France. Ça aurait été considéré comme du racisme, etc. En Suisse, ça s'est fait comme ça et personne n'a moufté, y compris d'ailleurs les frontaliers. Nous, on a subi ça parce que moi, j'étais frontalier. C'est que quand il y a eu, effectivement, je crois que c'est vers les années 75, hein, il y a eu la crise de l'emploi, la Suisse a simplement pratiqué la préférence nationale.
Grâce à la démocratie directe.
Sans état d'âme, parce que c'est une logique. La préférence
faire passer
nationale
les siens avant les autres.
Bien sûr, est une logique.
Elle a exporté son chômage.
Donc la question des frontaliers est encore essentielle dans le débat.
Ce que je peux vous dire déjà, j'aimerais rajouter que donc nous avons ces travailleurs français et même allemands hein, de l'autre côté qui viennent en Suisse, mais de l'autre côté, il y a de nombreux Suisses qui vont s'installer en France.
Oui, eux, c'est pour les loyers.
Tout à fait, le ouais. Prix de l'immobilier en général.
Donc il y a un double.
Donc ça va dans les deux sens. Ensuite, autre conséquence, c'est la surenchère au niveau du prix de l'immobilier en France voisine pour nous.
Ça fait monter les prix.
Donc oui, c'est assez dingue. En fait, le français qui vit dans cette région mais qui bosse pas en Suisse, il est cuit. Ensuite, politiquement, qu'est-ce qui se passe? Nous avons eu d'anciens membres de l'UDC, donc de mon parti, qui ont fondé un parti qui s'appelle le Mouvement Citoyen Genevois. Et eux, en fait, ont fait de cette lutte contre le travailleur frontalier leur fonds de commerce. Personnellement, je trouve que c'est assez dégueulasse, parce que le travailleur, en fait, en tant qu'individu, chaque personne essaie de s'en sortir comme elle peut, pour nourrir sa famille, payer ses factures. Et c'est en fait, on combat le symptôme sans lutter contre la cause. La cause, c'est quoi? La cause, c'est des patrons suisses qui veulent payer le travailleur moins cher. C'est tout. Ça s'arrête là.
C'est avant tout une affaire de dumping salarial.
Oui, tout à fait.
Oui, c'est pareil partout. S'il n'y a pas de loi de protection qui protège, de loi de protection politique pour protéger le citoyen lambda, la logique économique amène toujours à la trahison, à la non-solidarité et à la préférence étrangère, entre guillemets. Mais en tout cas, la préférence nationale est quelque chose qui est encore inscrit dans la Constitution suisse.
Oui, aujourd'hui, si vous regardez les offres d'emploi, à Genève, par exemple, c'est pratiquement chaque fois écrit résident ou suisse.
Oui, ouais. Alors qu'en France, ça serait inconcevable. Hein. Ça tombe sous le coup de la loi, ouais. Marqué préférence nationale.
Ali Moudine, les mouvements migratoires internationaux touchent aussi la Suisse de plein fouet, je crois, notamment des Érythréens, c'est ça?
Voilà, alors on n'est pas touché par les Syriens, comme je vous ai dit avant. Par contre, il y a beaucoup de jeunes hommes érythréens qui vivent aux dépens de l'aide sociale.
70% sauf erreur. Hein.
Même 90%, il me semble. Donc c'est une immigration assez problématique. Le peuple ne comprend pas pourquoi on lui impose une telle immigration.
Oui, après, en plus, parce que justifient en fait leur présence en Suisse par une situation politique difficile dans leur pays. Mais lorsqu'on voit certains de ces Érythréens qui vont passer leurs vacances dans leur pays d'origine, on se demande où est le risque, vous voyez.
Et alors, il y a eu cette affiche choc de l'UDC avec les moutons blancs et le mouton noir qui avait fait scandale en France, peut-être même plus en France qu'en Suisse. Est-ce que, quand vous faites les marchés pour vous faire élire et ainsi de suite, l'immigration est devenue une préoccupation centrale auprès de l'électorat?
Bon, cet été, comme vous le savez, les médias en ont vraiment fait le sujet de l'été, le sujet chaud. Donc évidemment, ça s'est reflété sur la population. Les gens étaient inquiets. De voir en fait ces hordes se déverser sur l'Europe. Et je pense que cette situation a quand même eu une conséquence sur les élections de dimanche dernier.
Et vous avez une marge de manœuvre maintenant que vous avez gagné des élections sur ces thèmes-là? Vous pensez avoir une marge de manœuvre réelle ou
Ah oui, tout à fait. Alors là, ça a vraiment donné raison à mon parti qui se bat depuis toujours en fait contre l'immigration de masse.
Et vous concrètement,
ça a confirmé en fait nos théories.
Et le système politique suisse vous donne les moyens d'agir ou
Il va devoir. Enfin, je veux dire là, on en majorité, voilà.
Alors, actuellement, c'est une ministre socialiste, Simonetta Sommaruga, qui est en charge notamment des questions d'asile. Le moins qu'on puisse dire, c'est que sa politique est assez laxiste. Le taux d'acceptation des requérants d'asile est très élevé. Je crois que ça doit être de l'ordre de 65%, alors qu'en France, je pense que vous avez à peine 15% de requérants d'asile qui obtiennent le statut.
Oui, mais enfin, les autres sont tous clandestins sur le territoire. Je crois que c'est 93% qui restent quand même sur le territoire. Donc, nous, c'est la politique du clandestin généralisé.
L'information est sur le site d'Égalité et Réconciliation.
Question incidente, intéressante. Est-ce que vous avez en Suisse, comment dirais-je, des gauchistes du niveau de crétinerie et d'agressivité de la France?
Alors, on les croise tous les jours.
Nous, avec notre média lapravda.ch, nous avons été à des manifestations de gauchistes en faveur de l'immigration et on a refusé de nous répondre ou on était très agressif envers nous. On nous a prié de partir.
On n'était pas loin des situations dans lesquelles se retrouve parfois Vincent.
Ouais, donc c'est international, ce gauchisme.
Oui, je peux montrer ma solidarité envers Vincent sur ce sujet.
Merci beaucoup.
du moins européen, peut-être pas international, mais européen. Je ne sais pas s'il y allait même en Inde ou au Sri Lanka.
C'est intéressant de voir l'équivalent. Ouais. Bref,
en tout cas, c'est pandémique, malheureusement.
Au bout d'un moment, on les avait envoyés à Katmandou, mais ils sont revenus.
C'est toujours dans le milieu étudiant.
Bien sûr. Des gens qui n'ont pas vraiment bossé de leurs mains.
Les enfants de la bourgeoisie.
Qui sont loin de la réalité.
Les punks à chiens.
Avec le discours droit de l'homiste stéréotypé et abstrait, comme ça.
Oui, ces gens sont payés pour leur action, là, il faut le savoir.
Oui, c'est ça, parce que souvent, en fait, ils sont dans des assos qui touchent des subventions.
Ça passe Soros en Suisse.
Oui, parce qu'il y a beaucoup d'organisations internationales. Je connais une personne qui bosse pour une organisation qui lutte contre la détention des migrants, et j'ai découvert sur Internet que c'était financé par George Soros, quoi, Open Society Foundation.
Donc c'est aussi présent en Suisse, on est dans la même situation.
C'est les mêmes réseaux, hein, à chaque fois.
Et une petite différence aussi importante, c'est que en France, ce qui nous empêche de réagir à tout ça, c'est la réduction ad petit. Pétinum, hein, c'est-à-dire
Pétain. Nous, c'est ad Hitlerum, donc finalement...
Oui, mais pourtant, vous n'avez pas de passé collaborationniste. Donc, malgré tout, le même chantage moral s'exerce sur les Suisses, bien qu'il n'ait pas eu Pétain.
Hein. Non, mais par contre, souvenez-vous de l'affaire des fonds en déshérence.
Oui, mais c'était une escroquerie.
On a eu droit à un racket vraiment organisé.
C'était une escroquerie, un racket. Il y avait autant de fonds en déshérence dans les banques américaines et même dans les banques israéliennes.
Oui, et puis en plus, on essaie de nous resservir la même soupe et essayer encore de gratter des sous maintenant. Vous voyez, c'est une espèce de rente qui ne se termine pas.
Il n'y a pas besoin qu'il y ait une politique d'État antisémite pour subir un chantage de la communauté juive organisée et souvent un chantage mensonger. D'ailleurs, on pourra revenir, ça sera un autre sujet, à géométrie variable. Parce qu'aujourd'hui, Netanyahou vient d'opérer une révolution copernicienne. Je ne sais pas si vous le savez.
Oui, tout à fait, avec le grand moufti, c'est ça.
Oui. On va pouvoir en parler.
On a notre transition, Vincent.
Voilà, d'ailleurs, c'est exactement le sujet d'actualité que nous comptions aborder avec Xavier. Xavier, Netanyahou a fait des déclarations étonnantes mercredi dernier.
Oui, il a quasiment rendu responsables les Palestiniens et le grand moufti de Jérusalem de la Shoah. Alors à quoi il faisait référence? Il faisait référence à en fait un accord qui avait été passé entre la Fédération sioniste d'Allemagne et l'Allemagne nazie et la banque anglo-palestinienne, donc qui était chapeautée par l'agence juive, donc une organisation qui s'occupe de l'Alia des Juifs. Donc c'est un accord de transfert qui a été passé en 1933 entre toutes ces parties. C'est un accord qui porte sur un transfert de population, des populations juives d'Allemagne en Palestine, alors sous domination
anglaise,
britannique, et donc avec un volet économique, donc aussi également le transfert des capitaux. Et donc cet accord a fonctionné vraiment jusqu'en 1939 et s'est réellement arrêté en 1942. Donc ce qui explique, par exemple, l'agressivité de groupes ultra-sionistes de l'époque comme le groupe Stern contre les Britanniques et non contre les Allemands. Donc, par exemple, dans Tintin, au pays de l'or noir, dans la version actuelle, vous avez des attentats commis par des Palestiniens contre les Anglais. Or, dans la version originale, c'était commis par le groupe Stern contre les Britanniques. Donc, la version a été changée, évidemment, après la guerre. Et donc, cet accord explique notamment que le Bétard et puis défiler dans les rues de Berlin jusqu'en 1938.
En uniforme.
En uniforme paramilitaire.
Chemise brune comme les fascistes Mussolini un peu. Hein.
Les photos existent, elles sont disponibles. C'est vraiment impressionnant. Et jusqu'en 1941, donc le groupe Stern a proposé en janvier 1941 une alliance militaire avec l'Allemagne nazie. Donc ça s'appelle le texte d'Ankara qui a finalement été rejeté par Hitler. Donc les gens qui sont aujourd'hui au pouvoir, c'est-à-dire le Likoud, sont les descendants, les héritiers politiques de l'Irgun et du groupe Stern. Donc finalement, Netanyahou, je crois Alain, a rétabli une vérité.
Là, si on veut prendre de la hauteur, d'abord, on vient de découvrir, grâce à Netanyahou, qui est quand même l'instance suprême en matière de vérité historique judéo-centrée, que Hitler était sioniste et que Hitler a cessé d'être sioniste en 1941 sous la pression musulmane. Hein, et là, on a vraiment un renversement copernicien, puisque le logiciel traditionnel jusqu'à hier, c'était que les musulmans, les arabo-musulmans n'ont jamais été génocidaires et ont toujours vécu en bonne intelligence avec les juifs, ce qui est d'ailleurs vérifié historiquement hein, par le monde arabe, et qu'en fait la cruauté génocidaire était intrinsèque à l'européen du Nord.
Dans l'ADN, hein, quoi.
Dans l'ADN de l'européen du Nord. Et là, Netanyahou nous dit le contraire, c'est en fait le bougnoul qui veut tuer du juif, en fait l'européen voulait juste le déplacer, et donc... Ce qui veut bien dire que Hitler était sioniste, hein, et que finalement, ça a plusieurs conséquences. Hein. Ça veut dire en gros que l'histoire pour la communauté juive organisée peut changer en fonction de ses intérêts du moment. Donc on est dans du révisionnisme intégral. Finalement, c'est assez étrange de voir que Netanyahou vient au secours du professeur Forisson et de M. Renoir en disant qu'effectivement... parce que ça contredit la conférence de Wenzé, c'est ça ? Hein ? Et que finalement, jusqu'en 1941, le projet aurait bien été un projet de déplacement et de transfert, donc compatible avec la volonté sioniste, l'alia, quoi, et que finalement Hitler aurait basculé sous la pression du mufti de Jérusalem, c'est-à-dire pour se soumettre à la volonté génocidaire des arabo-musulmans. C'est pas rien comme changement de paradigme. Hein.
Et parallèlement à ce contrat de remigration, en quelque sorte, qu'on ressort du tiroir, on voit le discours sur la guerre d'Algérie changer du tout au tout. C'est-à-dire qu'avant, le discours, c'était « les Français sont comportés comme des nazis avec l'OS », et aujourd'hui, on voit régulièrement des séfarades de l'ancienne génération, du genre Enrico Macias, pleurer la dernière émission d'Ardisson. Il a pleuré sur le plateau de télévision avec Ardisson et Michel Drucker sur l'Algérie française. Et... on parle de plus en plus d'un pogrom qui aurait eu lieu à Constantine en 1932. Donc ça, c'est de plus en plus rabâché. Et on a aussi l'impression qu'on est en train de réviser l'histoire de la guerre d'Algérie comme étant
une Shoah
des séfarades.
En fait, on voit bien que la boussole de la vérité historique est fonction des intérêts sionistes bien sentis. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, effectivement, le parallèle, c'est que le français en Algérie, c'était finalement la démocratie et la modernité blanche, c'est-à-dire les races supérieures venant civiliser les races inférieures, hein, c'est-à-dire le discours de Jules Ferry, et que finalement, le méchant palestinien, c'était le FLN. Hein. On est en train de réécrire l'histoire comme ça. Et ce qui est marrant, c'est que ceux qui sont en train de la réécrire comme ça sont les mêmes qui l'avaient écrit dans l'autre sens, puisque ceux qui ont en charge l'histoire de France, hiérarchiquement, c'est Nora et Stora, qui ne sont pas, comme vous le savez, des Bretons catholiques, et qui ne parlent pas souvent du décret Crémieux quand ils parlent de l'affaire Bakri, quand ils parlent de l'affaire, globalement, de la grande affaire algérienne. Hein. Mais donc là, on est dans quelque chose de passionnant et de très intéressant. Hein, on avance dans l'inconnu. C'est qu'effectivement, Hitler donc était sioniste. Hein, ça, c'est intéressant. Et ça permet de compléter. C'est que finalement, la position actuelle, l'évolution du Front National Mariniste actuel, qui consiste à se rapprocher de plus en plus d'Israël, hein, on voit les déclarations de Maître Collard, et cet anti-islamisme qui monte. Et finalement, contrairement à ce que les médias nous disent, la preuve qu'effectivement le Front National est bien dans la tradition d'extrême droite, car cette tradition d'extrême droite a toujours été de choisir le fort, le puissant contre le faible et le pauvre, donc finalement le juif international contre l'arabo-musulman ou le palestinien. Et ça nous rappelle que finalement Marine Le Pen est dans la pure tradition de l'extrême droite la plus dure, qui renvoie à la manière dont Minute traitait la guerre des six jours et se pâmait devant le général Moshe Dayan, aux écrits de Rebattet, deuxième période, son admiration pour le sionisme international, et que finalement, la gauche du Front National, c'était le virage pro-irakien et anti-impérialiste de Le Pen au moment de la première guerre du Golfe. Donc effectivement, là, je le dis solennellement, c'est une des raisons pour lesquelles je me suis éloigné du Front National, car le Front National, qui demain va avoir en charge pour les intérêts sionistes et maçonniques, la grande ratonnade française. Le Front National de Marine Le Pen opère bien, retourne bien, je veux dire, à sa base, c'est-à-dire l'extrême droite la plus bête du monde, qui va faire le sale boulot pour les intérêts judéo-maçonniques, et qui, effectivement, son logiciel est bien le logiciel d'extrême droite, c'est-à-dire pour la bourgeoisie sioniste dominante, contre le prolétariat et le sous-prolétariat arabo-musulman, pour Israël contre les Palestiniens. Donc la conclusion est bien là. Le Front National, malgré les tentatives aventureuses et assez admirables de Le Pen quand il s'est rapproché de moi ou de Dieudonné, est bien en train de redevenir un parti d'extrême droite, de cette extrême droite la plus bête du monde, qui assume toujours dans la violence, comment dirais-je, un passif qu'elle n'a pas voulu au départ. Je rappelle que c'est exactement l'histoire de la colonisation. L'extrême droite française était contre la colonisation qui était voulue par la Troisième République et les Rothschild. Hein, c'est le discours de Jules Ferry sur les races inférieures. Mais quand il y a eu la décolonisation, les seuls qui ont assumé le passif colonial étaient finalement l'extrême droite qui était contre. Et ceux qui leur ont tout mis sur le dos, hein, on le voit avec l'histoire de la Mitterrandi, sont ceux qui en étaient entièrement responsables, puisque je rappelle que Mitterrand a plus de 65 guillotinés FLN sur la conscience. Mais c'est toujours, on parle toujours de Jean-Marie Le Pen et de sa pseudo-torture à la Villa des Roses, qui est complètement absurde, alors que lui-même avait pondu l'incroyable discours de 1958, où il était pour la nationalité pleine et entière de tous les Algériens, nationalité française, pour ce qu'il appelait la plus grande France. Hein. Et là, on est bien dans ce perpétuel mensonge historique, perpétuelle bêtise de l'extrême droite, qui va toujours faire le sale boulot pour la gauche d'affaires, on va dire. Hein. Et cette sortie ou cette saillie drôlatique de Netanyahou nous permet de dire toutes ces vérités et de bien replacer les choses telles qu'elles sont.
D'ailleurs, Alain Soral, il me semble que vous rentrez d'Algérie.
Ça, c'est un autre sujet, oui.
Vous avez torturé à la Villa des Roses.
Alors, je suis allé passer 2 semaines en Algérie pour voir. Et c'est assez difficile d'en parler parce que, c'est effectivement, vous savez que c'est un sujet très sensible pour les binationaux franco-algériens-français qui souvent idéalisent leur pays d'origine, et d'autant plus d'ailleurs qu'ils ils n'y vivent pas et qu'ils n'ont pas l'intention d'y vivre. Et c'est un sujet qu'il faut, comment dirais-je, manier avec des pincettes, un peu comme d'ailleurs la question de la persécution des Juifs. Ce sont des sujets très, 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 très brûlants et très difficiles à aborder de façon sereine, dépassionnée. Ce que je peux dire, moi, c'est que j'ai été très, très bien accueilli en Algérie, qu'il n'y a, de la part de la population algérienne, absolument pas la problématique anti-française ou anti-coloniale dont on nous rebâche les oreilles en France par nos élites intellectuelles juives et leurs comment dirais-je, assistants ou subordonnés binationaux.
Ouria Boutelja.
Alors, je vais prendre un exemple précis. On m'avait agressé physiquement parce que j'avais osé dire qu'Ouria Boutelja ne pourrait pas se permettre de dire en Algérie ce qu'elle dit en France. J'étais très, très au-dessous de la réalité. Je rentre de la ville de la fête algérienne, hein, c'est-à-dire pas d'Alger, mais de Oran, qui est censée être la ville de la fête, Didi, etc. Je peux vous dire une chose, c'est qu'il est inconcevable qu'Ouria Boutelja puisse s'asseoir à une terrasse de café et boire un café en terrasse dans Oran. Il n'y a que des hommes et elle se ferait immédiatement remettre à sa place. Il est inconcevable de voir Ouria Boutelja monter sur un deux-roues, ça n'existe pas, ou même derrière un deux-roues conduit par un homme. Voyez, c'est-à-dire qu'il y a un mensonge total de ceux qui ont en charge, je dirais, l'antiracisme, les supplétifs de nos antiracistes juifs, les antiracistes maghrébins. Ils mentent totalement sur la situation algérienne et ils maintiennent en France une haine raciale qui n'existe absolument pas en Algérie envers les Français. J'ai été très très bien accueilli là-bas, j'ai fait des tas de photos quenelles avec des jeunes, j'ai eu la joie de découvrir que j'étais assez connu là-bas. Et la problématique des Algériens d'Algérie, ce n'est pas le passif colonial français, tout simplement parce que la colonisation est présente absolument partout, puisque toute la ville d'Oran est une ville française, hein. Elle était évidemment interdite aux Arabes, hein, à l'époque. Donc évidemment, on ne va pas dire que c'était l'extase à l'époque coloniale, mais pour les Algériens d'Algérie, il n'est pas question de nier de façon agressive la colonisation française, puisque c'est comme nous si on niait notre passé romain, vous voyez, en tant que Gaulois. Ça a constitué, d'un point de vue de l'urbanisme, la totalité des villes comme Alger, Oran. Donc tout est encore écrit en français et tous les bâtiments sont français. Donc effectivement, les Algériens d'Algérie, sereinement et calmement, admettent effectivement qu'il y a une histoire qui est ce qu'elle est, qu'effectivement, la colonisation leur a permis d'hériter de tout un urbanisme, les routes, les bâtiments, etc., de très bonne qualité, qui sont d'ailleurs plus ou moins squattés aujourd'hui. Hein, je veux dire, les grandes villes algériennes ressemblent plutôt à la Havane de Cuba, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses délabrées et très mal entretenues. Hein, ça, c'est un vrai sujet. Et il n'y a aucune agressivité envers les Français. Leur problématique, elle est plutôt la relation au gouvernement algérien, le fait que ce soit un pays assez atypique, qui est une, on va dire, un régime autoritaire de type militaire avec une économie assez bloquée et un secteur privé entièrement sous contrôle de l'armée, avec beaucoup, beaucoup de systèmes de bakchich, etc.
Mais de bonnes réserves financières, finalement.
Non, l'Algérie vit sur la manne pétrolière et gazière. Donc c'est un pays à la fois très, très riche grâce à ça, où la richesse est très, très mal partagée, où la vie n'est pas chère, mais où il y a très, très peu de débouchés pour les gens qui veulent faire quelque chose. Et moi, ce que j'ai constaté, par exemple, j'étais à Oran, j'ai pas vu un type en costume dans la rue. En réalité, la grande bourgeoisie algérienne, consciente de tout ça, vit à l'étranger, comme Bouteflika, hein, et ne vit en Algérie, finalement, que les petites gens qui vivent un peu comme on vivait dans les pays de l'Est dans les années 60, hein, c'est-à-dire un pays qui dort, où la population est sous surveillance, mais en même temps où la vie est assez facile. L'essence ne coûte rien, les loyers sont pas chers, la nourriture n'est pas très chère, avec, comment dirais-je, une vie qui est très familiale à l'ancienne. Autre remarque, je vais le dire, c'est assez cruel, l'Algérie est une immense poubelle. Il y a un vrai problème de saleté publique en Algérie, il y a des ordures partout. C'est une catastrophe, hein, et une honte pour les Algériens honnêtes. Les deux choses qui sont propres en Algérie sont les mosquées et les casernes militaires. Ce qui veut dire que les deux choses qui marchent en Algérie sont le religieux et le militaire. Et en fait, le pays, c'est ça. En fait, les militaires, après avoir vaincu la tentative de putsch islamique, ont quand même confié la société civile à l'islam. Hein. Et il y a une raison à ça. C'est qu'un régime militaire de type socialisant et l'islam ont un point commun, c'est qu'ils sont un frein à la modernité. La modernité les balayerait et la domination religieuse et la domination militaire. Donc il y a un consensus en fait laïco-religieux et militaro-religieux qui est de maintenir cette société dans une anti-modernité, ce qui peut avoir d'ailleurs un certain charme. Mais en même temps, c'est un constat. Quiconque veut participer à la modernité mondialiste est obligé de quitter le pays, hein, pour vivre, je dirais, une vie de winner ailleurs. Hein, voilà. L'Algérie est un pays qui est passé de 15 millions à 40 millions d'habitants depuis la décolonisation, où en fait, y a peu d'emplois, mais par contre où tout le monde vivote en famille, c'est-à-dire que les gens restent chez leurs parents très longtemps, où toute la vie privée est quand même de type musulmane. Hein, on entend l'appel du muezzin. Ça prétend être une république socialiste. C'est quand même un pays d'islam. Ce qui m'a choqué, moi, je le dis, c'est que la grande église d'Oran a été débaptisé et transformé en bibliothèque. Je ne sais pas ce que les musulmans penseraient. Elle aurait été transformée en mosquée, j'aurais trouvé ça moins attentatoire. Hein, on voit la plus grande église d'Oran qui est une bibliothèque municipale, vous voyez. C'est-à-dire, c'est une profanation, c'est une désacralisation. Je ne sais pas ce que penseraient les musulmans d'origine algérienne en France si on se permettait de transformer une mosquée en gymnase, par exemple, vous voyez. Ça m'a particulièrement choqué. C'est-à-dire que l'Algérie est un pays antichrétien, même si c'est une république soi-disant laïque et socialiste, où la société civile est confiée à la gestion quand même de l'islam. C'est un islam de collaboration avec le régime militaire. C'est un pays de chômage massif, mais caché par la vie peu chère, et aussi par l'armée pléthorique. Et quand on réfléchit à cette armée omniprésente, il y a des casernes partout, très peu modernes, hein, et très peu... en fait, l'armée algérienne a pour fonction... Elle ne fait la guerre à personne d'autre qu'à son propre peuple.
Hein. C'est police, en fait.
Oui, c'est une police, oui. Et puis aussi un moyen, comme dans les régimes de type socialiste qu'on a vu ailleurs, de maintenir un certain emploi. C'est-à-dire que les débouchés en Algérie pour un jeune, c'est souvent la fonction publique et notamment l'armée, vous voyez. Mais c'est une armée de fantassins, peu armée. Mais par contre, il y a des casernes partout. Et tout ce qui est propre en Algérie, c'est les casernes et les mosquées. Tout le reste est sale, je le dis, hein, je veux dire sale. C'est-à-dire, il y a des ordures partout. Il y a un vrai problème de, comment dirais-je, de. Alors.
Peut-être un débouché pour Veolia. Ou...
Non, mais parce que aussi il y a un gros problème de détournement d'argent public, et puis aussi un problème là où il faudrait se poser la question, comment les gens acceptent-ils de vivre dans un milieu plein d'ordures ? Je ne plaisante pas, hein. Y a des sacs poubelles partout. C'est inconcevable. Pour les Suisses, je pense qu'un Suisse qui débarque là-bas, il fait une dépression nerveuse dans les deux heures. Hein. Voilà.
Donc c'est très différent du Maroc qui a un tourisme de
masse. Oui, pas à cause du tourisme, sans doute, parce que l'Algérie n'est pas du tout un pays de tourisme. Quand j'ai voulu aller en Algérie, je suis allé dans une agence de voyage, on m'a dit « nous ne faisons pas cette destination » et elle est déconseillée par le Quai d'Orsay. Donc il y a bien une volonté, en tout cas de la France, d'empêcher les Français d'aller en Algérie, ça c'est sûr. Et là-bas, effectivement, le tourisme n'est pas prévu. Par contre, je dois le dire, les Algériens sont très gentils. Très gentil, je suis arrivé en tant que Français, j'avais même une croix catholique autour du cou. Il n'y a aucune agressivité de rue. La jeunesse un peu éduquée est très, très sensible, effectivement, à la dissidence française. J'ai fait plein de photos dans la rue de Quenelle, etc., parce que tout le monde a des smartphones, hein, quand même, là-bas. C'est un pays, je dirais, de nonchalance et qui dort. Je pense que ça ressemble beaucoup à ce qu'étaient les pays de l'Est... peut-être plus aujourd'hui, mais les pays de l'Est avant la chute du mur de Berlin. C'est-à-dire que c'est un pays qui vit, comment dirais-je, sous... Il y a un couvercle. Hein, et c'est un pays où il y a énormément de jeunes. Dans la rue, on ne voit pratiquement que des... surtout des jeunes mâles, parce qu'en fait, les femmes, c'est quand même un pays d'islam, sont à la maison et rentrent à la maison à partir d'une certaine heure. Je vous le dis, dans les cafés, c'est très rare les cafés qui acceptent les femmes. L'immense majorité des cafés, il n'y a que des hommes. C'est pour ça que moi, j'aimerais bien lancer un défi à Roya Boutelja. On retourne en Algérie ensemble et elle me fait son numéro qu'elle fait en France, en Algérie. Et on verra combien de temps elle tient avant de rencontrer de gros, gros problèmes. Alors que moi, à contrario, tous les jeunes Algériens que j'ai rencontrés me demandaient de faire des conférences et de parler en public pour faire ce qu'ils n'osent pas faire, c'est-à-dire critiquer le régime algérien. Ce que je m'abstiens totalement de faire parce que je ne suis pas Bernard-Henri Lévy. Je ne vis pas en Algérie. Et je n'ai rien à dire d'autre qu'un constat extérieur sur l'Algérie, n'ayant pas l'intention de m'y installer, vous voyez. Mais par contre, les jeunes Algériens qui m'ont parlé me demandaient tous de faire des conférences pour dire ce qu'ils n'osent pas dire, eux, sur le régime. Parce qu'effectivement, on ne va pas dire que c'est un régime de policiers violents, mais il y a quand même une tradition de silence et de... on ne la ramène pas trop en Algérie contre
le régime. Faudrait un sort algérien, en fait, c'est ça?
J'en suis pas sûr, parce qu'en réalité, comme je l'ai dit, l'Algérie est une exception qui, en fait, prolonge dans ce pays et dans ce pays seulement l'espèce d'équilibre issu de la guerre froide. Hein. Et c'est un pays qui est une... comment dirais-je, un peu comme Hibernatus. C'est un pays qui... C'est un des rares pays qui n'est pas encore passé sous la coupe du nouvel ordre mondial. Simplement pour une raison simple, comme en Iran, où les religieux ont aussi le pouvoir économique, là-bas, c'est les militaires ont le pouvoir économique. Donc quand on a à la fois l'argent... Et l'armement, c'est un peu ce qui a fait le pouvoir de Poutine quand il a pris le contrôle de Gazprom, on a réellement le pouvoir. Donc il y a réellement un pouvoir en Algérie qui n'est pas soumis au mondialisme, même si le régime algérien, pour se maintenir, négocie de manière très subtile et perverse avec toutes les puissances, les Français, les Anglais, les Américains, les Chinois. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que c'est un régime officiellement anti-sioniste dur. Hein, il n'y a pas d'ambassade, je crois. Hein,
Enrico Macias n'a pas pu aller pour ça. Parce
oui, oui. Et que les Algériens se souviennent quand même du rôle qu'ont joué les Juifs du Maghreb pendant la colonisation. Et je vous garantis que les Juifs d'Algérie, il y en a, ils ne la ramènent pas du tout comme ils la ramènent ici. Hein. Voilà, on ne voit pas de kippa dans les rues. Je crois qu'il n'y a ni église catholique, ni synagogue. Hein. Enfin, en tout cas... La synagogue qu'on m'a montrée à Oran avait été transformée en mosquée, alors que l'église catholique avait été transformée en bibliothèque, où d'ailleurs il n'y avait personne. C'était très déprimant à voir. Hein. Moi, c'est là que j'ai compris que j'étais catholique. Rentrer dans une église qui a été profanée, débaptisée, ça fait très mal. Hein. On voit qu'il y a quelque chose de très insultant et de très irrespectueux. Hein. Je vous dis, transformer un lieu de culte... Je me suis promené dans les pays arabes où on voit ou même en Espagne, hein, où on voit des lieux catholiques qui ont été transformés en lieux musulmans puis retransformés en lieux catholiques. On est quand même dans la continuation du divin. Mais désacraliser,
oui, Sainte-Sophie, Istanbul, voilà.
Désacraliser un lieu sacré pour en faire un lieu ouvertement païen, même si là c'est un lieu de culture, parce que c'est une bibliothèque, hein, c'est pas une porcherie, mais quand même c'est la preuve d'un anti-catholicisme politique virulent. Il faut quand même le rappeler pour les gens qui se plaignent en France, même si je comprends leur demande, hein, d'avoir des lieux de culte décents, il serait bien de temps en temps que certains se posent la question de à quoi ont droit les catholiques et les chrétiens dans le monde arabo-musulman actuel, dont fait partie l'Algérie officielle. Hein.
Ou en Suisse, quand on a passé cette initiative pour interdire les minarets, voilà, tout le monde s'est plaint. Mais en fait, voilà. Ouais,
vous... Mais parce qu'aussi, il faut bien comprendre, nous, on est dans la logique des droits de l'homme et de la démocratie avancée. Les pays arabo-musulmans ne sont pas dans cette logique. Donc, à la limite, ils disent, selon leur logique, il y a une seule vraie religion et il n'est pas question de favoriser l'apostasie. Je ne critique pas la position, par exemple, algérienne, etc. Ce que je critique, moi, c'est l'illégitimité et la malhonnêteté totale de ceux qui sont censés représenter en France les minorités ou la communauté binationale franco-algérienne ou les Français issus de la décolonisation, on va appeler ça comme on veut. Ils sont totalement malhonnêtes et totalement illégitimes. Et ça, vous pouvez le vérifier en allant en Algérie. J'ai parlé de Boussouma, de Bouamama et de Boutelja à des intellectuels algériens. Ça ne leur évoquait rien du tout. Ils m'ont dit « ces gens-là ne sont rien pour nous ». En fait, ils n'existent. Ils ne sont mandatés en France que par la puissance judéo-sioniste. Ça, c'est vérifiable absolument. Et par les réseaux trotskistes, qui veut dire la même chose, c'est-à-dire l'aile gauche des néoconservateurs. Hein. Ils n'ont aucune légitimité pour parler de ce dont ils parlent. Et en Algérie, ils rencontreraient très vite de gros problèmes, et par rapport aux masses, et par rapport au pouvoir politique. Et ça, je mets au défi Boussouma, Bouamama et Boutelja de m'accompagner en Algérie et qu'on vérifie sur le terrain s'ils peuvent faire leur numéro d'incitation à la haine raciale, ce qui est quand même leur travail permanent, et à la tension, s'ils pourraient faire ce même numéro dans leur pays dit d'origine, où ils se gardent bien d'aller vivre, hein, bien évidemment. Hein.
Et Alain, vous parliez tout à l'heure qu'il y a des rues d'Oran où on ne voyait pas de kippa. On a vu dernièrement un documentaire d'Envoyé spécial sur cette question. Le journaliste s'était promené 10 heures dans les rues de Paris avec une kippa sur la tête. Et il a démontré, en fait, par cette expérience, qu'il ne se passait rien quand on se promenait avec une kippa dans les rues de Paris.
On lui a même proposé du thé, de l'eau dans une cité.
Voilà. Oui, alors c'est le même journaliste issu de Canal+, là, qui m'a fait mon interview censurée. Donc c'est intéressant. Alors il faudrait savoir s'il a fait cet exercice avant ou après être venu me voir. Je pense qu'il l'a fait après, parce que moi, quand j'ai parlé avec lui, quand il m'a dit qu'il y a une montée de l'antisémitisme, notamment des banlieues, ce qui valide la thèse Netanyahou, hein, que le génocidaire anti-juif serait l'arabo-musulman. C'est infirmé par l'histoire et c'est infirmé par le travail qu'a fait ce journaliste. Évidemment, je l'ai toujours dit, moi qui fréquente les banlieues, il n'y a pas de haine anti-juive en banlieue parce qu'il y a cette tradition des cousins, il y a cette tradition du monde de la circoncision. Il n'y a pas de violence anti-juive en banlieue. C'est très rare, c'est rarissime. Et ce type l'a vérifié en marchant 60 heures sans jamais rencontrer de problème. Mais après, il faut comprendre comment le sujet a été monté. N'oubliez pas que c'était un sujet qui commençait par ça. Après qui passait à la jour de colère, qui était censé montrer plutôt des types d'extrême droite, et qui devait culminer par mon interview. Et le message profond était de dire sur une ligne de gauche française, qui n'est pas la ligne Netanyahou d'aujourd'hui, ça c'était la ligne d'hier, qu'en gros, les responsables de la montée de l'antisémitisme sont bien l'éternelle extrême droite blanche française, dont le maître à penser aujourd'hui serait Alain Soral. C'était ça la structure de cette articulation de reportage qui faisait ce grand sujet. Hein. C'est pour ça que France 2 a diffusé ce reportage très honnête de ce journaliste très bête et très inculte pour montrer effectivement la violence ne vient pas des arabo-musulmans, qui est quand même un électorat récupéré pour le Parti socialiste au pouvoir. N'oubliez pas que c'est quand même France 2, là. Hein. C'est le France 2 de Hollande. C'est pas le France 2 de Sarkozy. Il est plus aux affaires. Hein. Et c'était bien montré que, finalement, la montée de l'antisémitisme venait bien de l'extrême droite et que c'était moi le maître à penser de tout ça. C'est comme ça qu'ils avaient construit qu'ils avaient articulé leur sujet. Hein. Il faut bien comprendre pourquoi, d'un seul coup, ils ont osé dire la vérité sur le non-antisémitisme des banlieues. C'était pour me le coller sur la gueule, hein, bien évidemment. Il faut bien comprendre comment ça fonctionne. Et pourquoi ne l'ont-ils pas fait? Je pense qu'il y a plusieurs raisons. Un, parce qu'ils savaient que j'avais contre-filmé et que le journaliste avait pris une raclée comme on n'en a jamais vu. Mais aussi parce qu'il y a eu une grosse offensive contre moi récemment, notamment avec le livre de Street Press, qui est une catastrophe économique équivalente au livre de ma sœur. C'est-à-dire que nos dominants se rendent compte que parler de moi de façon agressive dans les médias, finalement, c'est me faire de la publicité et que c'est moi qui marque des points. Donc je pense qu'aujourd'hui, leur stratégie, c'est retourner un peu à la stratégie de l'édredon, c'est-à-dire on parle moins de Soral, mais par contre, on le massacre au niveau judiciaire. Ce qui est, je peux vous le confirmer aujourd'hui, je reçois, comment dirais-je, des courriers d'huissiers tous les jours pour des plaintes, des procès, etc. Donc leur idée, ce n'est plus de parler de moi dans les médias parce que je gagne le combat de la vérité, mais par contre de me massacrer économiquement en faisant tapiner, comment dirais-je, le parquet, hein, c'est-à-dire avec cet effondrement de la séparation des pouvoirs qu'incarne, comment dirais-je, le ministère Taubira, hein, et puis qui est vérifié par tout ce que je prends dans la gueule comme condamnation en ce moment. Voilà, donc là, je vous ai fait un petit résumé global de la situation.
On a vu le fils d'Aziza qui a publié un article ce mercredi 21 octobre intitulé « J'ai essayé de prendre Soral au sérieux ». Alain, vous pensez quoi de cette attaque ?
Alors déjà, je n'ai pas lu l'article parce qu'il est très très long et très amphigourique. J'ai demandé à mon avocat de le lire.
Mais il est majeur, son fils ?
Oui, c'est un...
Oui, là,
il doit avoir 30 ans.
Une trentaine d'années, ouais.
C'est un espèce de... qui suinte l'élection divine par tous les pores et qui s'est comporté envers moi de manière incroyablement hautaine et injurieuse lors du procès, sachant qu'en appel, le père a cité comme témoin son fils, ce qui est totalement illégal. Hein, parce que, du coup, il n'a pas prêté serment, mais il m'a quand même craché à la gueule pendant une demi-heure devant les trois juges et Bobby. Hein. J'ai dû subir ça. Hein, voilà, j'ai dû subir le tribunal rabbinique en appel. Hein, voilà. Et là, comme il estime que ce n'est pas assez, j'ai été condamné en appel à 15 000 euros d'amende et de condamnations diverses, 15 000 euros pour avoir fait un karaoké où je disais « Aziza, je te veux si tu veux de moi ». Pour vous dire, hein, où est l'incitation à la haine. Et là, il prend un article dans le truc de Bernard-Henri Lévy pour essayer de m'exterminer. Je crois qu'il y a des mots, d'ailleurs, qui sont employés. Hein,
Soral de la mauviette.
Il me traite de mauviette, il veut m'exterminer. Enfin, je sais pas trop.
Mais parce qu'il mesure combien, ce monsieur, en fait ?
1m65.
D'accord.
Non, mais là, bon, je pense qu'il y a vraiment une haine raciale et tribale qui s'exprime librement aujourd'hui, qui est le mépris total de l'élu pour le Goy. Hein, il l'exprime parfaitement. Et puis, il y a sans doute vouloir me pousser à la colère, dans l'espoir que j'aurai une réaction physique. Parce que c'est vrai que, vous savez, dans la vie, vous voyez bien, c'est toujours les petits chiens qui aboient sur les gros. Et en général, les gros chiens regardent avec dédain les petits chiens aboyants. C'est rare qu'ils leur mettent un coup de dent. Mais à la faveur de la fatigue nerveuse, ça pourrait arriver avec tout ce harcèlement. Donc je pense qu'il y a un réel espoir de la part de ce genre c'est qu'à un moment donné, j'ai un geste un peu agacé à leur endroit. Et là, ils ne manqueraient pas, effectivement, de faire jouer tout le système policier judiciaire dont ils ont le parfait contrôle afin de me faire embastiller, condamner, etc. Je pense qu'il y a cette stratégie du harcèlement.
C'est une réaction très féminine, alors.
Bah là, je pense qu'il faut lire Otto Weininger, oui, effectivement. Oui. Mais ce qui est marrant, d'ailleurs, c'est qu'aujourd'hui, mais ça, je pense que c'est toute espèce de confusion qui est issue des sabras, etc., c'est que cette prétention pour des gens qui ne sont capables que de tuer des femmes et des enfants avec des armes modernes et à distance, cette prétention d'incarner la virilité traditionnelle. C'est assez... Je pense qu'il leur faut tout. Hein. Ils veulent la totale. Je veux dire, le beurre, l'argent du beurre, et le cul de la crémière.
Pascal, le mot de la fin, peut-être ?
Ben merci, c'était sympa d'être parmi vous aujourd'hui. Moi, je ne suis pas un intellectuel, donc je n'ai pas grand-chose à dire. Je me contente de beaucoup écouter. Et je parlerai davantage lorsque j'aurai plus de choses à dire.
Un message pour les auditeurs de l'heure la plus sombre ?
Bah, continuez à soutenir ER et puis on va gagner.
Messieurs, merci beaucoup donc pour cette discussion. Je rappelle à nos auditeurs, Ali Moudine, que votre entretien avec Gilad Atzmon du tribalisme à l'universel est disponible sur le site Contre-Culture. Xavier, nous nous retrouvons la semaine prochaine avec comme invité Damien Viguier, l'avocat d'Alain Soral.
Entre autres.
Qui est aussi
l'avocat des Syriens contre Fabius. C'est un gros combat, ça.
Nous nous poserons la question de savoir si nous vivons encore dans un état de droit. D'ailleurs, Alain, vous êtes invité pour l'émission, hein, si vous voulez venir.
Je vais venir à chaque fois quand même, parce que j'ai tendance à monopoliser la parole, après on me le reproche.
Chers auditeurs, nous allons conclure cette émission en musique sur les notes de Gilad Atzmon. Le morceau s'appelle Whistleblower et est tiré de l'album du même nom, disponible à la vente sur contreculture.com. Bonne écoute à tous et à la semaine prochaine.